Chapitre 6e. Au commencement du siècle, le faubourg Saint-Honoré n'était point ce qu'il est aujourd'hui, un quartier animé, populeux, rempli de maisons somptueuses, de boutiques brillantes. Au-delà de ce qu'on appelait la porte Saint-Honoré, se trouvaient seulement quelques beaux hôtels, bâtis entre cours et jardins, dont les plus vastes, ainsi qu'on le voit encore, longeaient les Champs-Élysées. Autour de ces constructions, et dans les intervalles qui existaient entre elles, des terres à vagues offraient aux spéculateurs, entrepreneurs et maçons, un large champ pour exercer leur industrie. Aussi la pioche, le marteau et la scie y faisaient-ils l'assaut de musique discordante, au grand désespoir des voisins accoutumés depuis longtemps à la paix et au silence. Parmi les nouvelles maisons qui s'élevaient en ces lieux comme par enchantement, on en remarquait une qui, par son élégante et riche architecture, méritait d'attirer les regards du passant. Bâtie à l'anglaise, comme on disait alors, avec ses murs blancs enrichis d'entablements de marbre, son toit plat bordé d'une galerie à jour, elle trônait coquettement au milieu d'un ravissant jardin coupé d'arbres, de pelouses, de fleurs, de bassins. Au moment où nous y introduisons le lecteur, on touchait à la fin d'août. Il était 7 heures du matin, un beau soleil, légèrement pâli par les approches de l'automne, commençait à répandre une douce chaleur sur toute la nature. Dans le jardin, les plantes, les herbes relevaient leurs tiges chargées de rosée. Une troupe d'oiseaux chantait sous les bosquets, tandis que d'autres, plus hardis, venaient, rasant de l'aile la surface des bassins en trouble et l'humide transparence. Tout s'animait au dehors. La maison seule, avec ses persiennes hermétiquement fermées, ses portes closes, semblait encore oublier le jour. Pas un bruit, pas un souffle ne s'échappait de ses murs blancs et unis, et on aurait pu se croire dans quelque palais enchanté par le dieu du sommeil, si des pas faisant crier le sable des allées n'eussent annoncé que tout ne dormait pas dans ces lieux presque féeriques. Deux promeneurs s'y trouvaient en effet, maître et serviteur. Le premier ayant passé la première jeunesse, mais paraissant plutôt vieilli par les chagrins et la souffrance que par les années, marchait appuyé sur le bras du domestique et suspendait souvent sa promenade comme pour reprendre une respiration qui lui manquait. Le domestique, à peu près de l'âge de son maître, s'acquittait de ses fonctions avec une condescendance et un empressement qui annonçaient autant de respect que d'attachement. On voyait que c'était encore un de ses serviteurs d'ancienne souche qui, sous le toit des maîtres, se croyaient sous le toit de la famille et savaient y placer, à gros intérêt, leur cœur et leur dévouement. Aussi celui-ci avait-il conservé jusqu'aux locutions d'autrefois, malgré l'abolition momentanée des titres. « Monsieur le comte me paraît moins bien aujourd'hui qu'hier, » dit-il pendant un des repos de son maître. « Ah, mon pauvre Richard, je m'en vais, » dit le malade. Richard ne répondit rien. Ses yeux se baissèrent tristement vers la terre. « Tu penses comme moi, n'est-ce pas ?» Et ce disant, les regards du comte se fixaient sur le visage du valet de chambre, avec cette expression de désir ardent qu'ont les mourants qui veulent qu'on leur promette la vie. « Monsieur le comte m'a ordonné de consulter son médecin, » répondit Richard en hésitant. « Il t'a dit qu'il fallait mourir. » En prononçant ces mots, les jambes du malade fléchirent. Richard le fit asseoir sur un banc. Le docteur m'a assuré qu'avec beaucoup de soins, beaucoup de calme. Et beaucoup de bonheur, interrompit le comte avec amertume. On pourrait peut-être prolonger mes jours. Ah, Richard, Dieu me punit sévèrement. Monsieur le comte n'a pas encore écrit à Rambouillet ? Demanda le valet de chambre. Je veux que ce soit toi qui portes cette lettre, et le moyen de se passer de ta présence même pour un jour. Puis vois-tu, mon pauvre Richard, le courage me manque. Si ma fille vit encore, elle doit être heureuse et tranquille avec les braves gens chez lesquels je l'ai laissée. Ici, quel sort l'attend? Quelle mère va-t-elle trouver à la place de la sienne? Et moi, son père, moi, à qui une funeste passion a tout fait oublier, comment oserais-je lui annoncer que j'ai disposé d'elle, de son avenir? Voilà, ajouta le comte, dont le visage se couvrait d'une pâleur mortelle, voilà ce qui, depuis 3 mois que nous sommes de retour, me fait hésiter de jour en jour. J'éprouve de la honte à revoir mon enfant. Ce court dialogue doit avoir suffi pour apprendre au lecteur que nous nous retrouvons en présence de M. de Martigné. L'histoire du comte, depuis le moment où il quitta la tour Robel, fut triste et lamentable. À peine arrivé à Paris, Lui et sa femme, accusés d'avoir mis le feu à leur château pour nuire aux patriotes, furent emprisonnés tous deux. La comtesse, déjà éprouvée par les terreurs de sa fuite et le malheur qu'il avait causé, tomba malade et ne survécut que peu de temps à son emprisonnement. Elle mourut en nommant sa fille. Elle venait de fermer les yeux, lorsqu'à force de démarches et de dévouement, le brave serviteur que nous avons déjà vu, favorisant l'évasion de ses maîtres et que nous retrouvons aujourd'hui auprès du comte, obtenait l'élargissement des deux prisonniers. À peine libre, M. de Martigny apprit qu'on le recherchait encore. Suivi de Richard, il se sauva en Angleterre. Le temps lui manqua pour faire revenir sa fille auprès de lui, et il fut même obligé, dans la crainte de compromettre, par l'ouverture d'une lettre, la famille de Germain, de quitter la France sans donner de ses nouvelles. À Londres, M. de Martigny vécut pauvrement. La nature qui avait fait de lui le meilleur des hommes lui avait refusé toute énergie dans le caractère. Sans force contre le malheur, il ne sut point se créer une existence laborieuse et lucrative, comme le firent courageusement à cette époque de désastre grand nombre de nos émigrés. Privé de jouissance et du bien-être que lui avait toujours procuré la fortune, soutenu seulement par le travail de Richard, il traînait une existence pénible et monotone qui l'aurait infailliblement conduit au spleen et peut-être à la mort si un événement imprévu ne fût venu changer le cours de sa vie. Parmi les Français qui s'étaient réfugiés à Londres se trouvait une certaine Madame Bouffard, femme d'un chaud jacobin, dont la Révolution avait été la première fortune et qui s'en était fait une plus solide aux dépens des armées de la République dont il était fournisseur. On sait les sommes fabuleuses que gagnèrent les munitionnaires d'alors. Le nom de Bouffard et la position qui y était attachée auraient dû exclure à jamais l'idée d'un exil à l'étranger, rendu nécessaire par les dangers qui n'atteignaient guère que la noblesse et le clergé. Mais il est des gens qui savent tout exploiter à leur profit, même les grandes calamités publiques. Le fournisseur Bouffard, ex-clerc de procureur, en possédait au plus haut degré la ruse et la prudence. Peu confiant dans la religion politique qu'il professait, moins confiant encore dans les grands prêtres qui la desservaient, craignant à toute heure de voir son culte renversé, ou un frère lui demander, le pied sur la gorge, la grosse part de son gain mal acquis, il résolut de mettre son trésor en sûreté. Un jour donc, on apprit qu'au mépris des opinions avancées de son mari, Madame Bouffard, qui avait toujours porté en secret, au fond de son cœur, l'amour de la monarchie, saisie d'indignation en présence des horreurs dont la France se rendait coupable, fuyait son ingrate patrie. Ce qu'on n'ajoutait pas, c'est que Madame Bouffard portait des millions à la banque anglaise et était destinée à recevoir au fur et à mesure ceux que son libéral époux devait gagner encore. Malheureusement, la mort qui ne consulte pas le droit des gens vint mettre son veto sur ses lucratives dispositions et au bout de 6 mois de séjour en Angleterre, Madame Bouffard était veuve. Quand on a commencé à jouer un rôle, il faut le continuer. Posée en royaliste de la veille, Madame Bouffard ne pouvait, sans s'attirer une réprobation générale, ne point rester la royaliste du lendemain. Elle devait d'ailleurs à son ingénieuse comédie la réalisation du rêve de toute sa vie, c'est-à-dire son admission dans la société aristocratique. Ayant un grand train de maison, des façons insinuantes, beaucoup de ruse et d'habileté, elle avait fini par se former un cercle de nobles émigrés qui étaient enchantés d'aller s'amuser chez elle. En exil, on n'y regarde pas de si près. Puis, les opinions de la veuve sauvaient tout, et ceux qui, à Paris, n'eussent point laissé dépasser leur antichambre à la Bouffard, allaient volontiers à Londres danser et jouer avec cette excellente Madame Bouffard. Mais l'excellente Madame Bouffard, qui avait l'expérience du passé et ne s'illusionnait pas sur les chances de l'avenir, savait bien que si les choses reprenaient en France l'ordre accoutumé, de tous ces beaux noms qui aujourd'hui lui résonnaient à son oreille charmée, pas un ne se rappellerait le sien. Il fallait donc arriver au moyen de consolider l'édifice dont les premières pierres seulement étaient déjà posées. Un seul auxiliaire suffisait à l'œuvre. Cet auxiliaire était un mari, pris justement dans le monde où, d'un jour à l'autre, la veuve du fournisseur révolutionnaire pouvait ne plus même avoir accès. L'esprit inventif de Madame Bouffard ne devait pas rester en défaut dans de semblables conjonctures. Aussi son plan fut-il bientôt dressé et l'exécution pressée avec une entente digne d'une meilleure cause. Parmi les hommes qui composaient l'intimité de Madame Bouffard, celui qui apparaissait le plus propre à l'accomplissement de ses yeux était M. de Martigny. Sa position, son caractère, permettaient à l'intrigue ses coups d'effranche. Le titre, l'extérieur distingué du comte, était bien fait pour la stimuler. Ce fut donc vers ce point envié que se dirigèrent toutes les batteries de la veuve. À cette fin, M. de Martigné se vit excepté de l'estracisme momentané que les convenances de son deuil obligèrent Mme Bouffard à imposer à sa société. « Venez, nos douleurs sont les mêmes, nous confondrons nos regrets », avait dit la nouvelle Artémise. Bien qu'elle eût dépassé la première jeunesse, Mme Bouffard avait conservé une remarquable beauté. Ses traits, quoique empreints de rudesse, étaient purs et d'une grande régularité, et quiconque la voyait sans la connaître pouvait la croire issue de cette classe aristocratique dont pourtant elle n'avait que l'épiderme. Toujours mise avec une extrême recherche, entourée de ces riens charmants qui aident tant à la séduction des femmes, pleine d'artifices, calculant l'effet d'une parole, d'un geste, ingénieuse dans ses soins, attentive à ne jamais ni froisser ni déplaire, flattant l'amour-propre des gens sans qu'ils s'en puissent douter, Madame Bouffard eut bientôt raison du cœur et de l'esprit du faible monsieur de Martigné. Aussi, à peine l'année du veuvage était-elle écoulée, que dans la fashion anglaise et française se répandit la nouvelle que sur les panneaux du carrosse doré par le fournisseur Bouffard allaient s'écarteler de Gueule ou de Sinople les trois marteaux des comtes de Martigné. Ce fut d'abord grand bruit parmi l'émigration. Les envieux crièrent haro sur le comte. Les bonnes gens et ceux qui avaient su juger le caractère de la prétendue le plaignirent, mais en fin de compte, la masse trouva que ce mariage avait le très bon côté de tranquilliser les consciences et de résoudre certaines hésitations qui, malgré tout, se dressaient quelquefois terribles entre l'ex-fournisseuse et ses nobles visiteurs. On ne connaissait plus que la comtesse de Martigné, on n'avait jamais connu la veuve Bouffard. Il arriva néanmoins qu'un incident assez grave vint pendant quelques semaines tenir en suspens cet hymen dont les esprits se montraient si préoccupés. Mère d'un fils élevé en France, Madame Bouffard exigeait que le comte de Martigné s'engageât à le prendre pour gendre en temps convenable et fit passer sur sa tête ses titres et son nom. La demande méritait de sérieuses réflexions. Ce fils, presque inconnu à sa mère, grandi au milieu de principes diamétralement opposés à ceux de la noble famille qu'on voulait l'obliger à perpétuer, pouvait ne justifier en rien l'honneur auquel on le destinait. D'ailleurs, qu'étaient des titres et un nom à cette époque? D'autre part, qui répondait que Mademoiselle de Martigné, si elle vivait encore, consentirait sans répugnance à ratifier les promesses de son père? À ces objections, qui, quoique assez spécieuse par elle-même, trahissait cependant la terreur d'un engagement qui pouvait compromettre l'avenir et le bonheur de la jeune Marie, Madame Bouffard ne répondait que par son ultimatum, opposant aux scrupules paternels du comte ses scrupules maternels à elle, qui lui faisait un devoir de réparer par tous les moyens possibles le tort qu'elle faisait à son fils en contractant un second mariage. Monsieur de Martigné commença par tenir bon. Il sortira de chez la veuve, on crut le mariage rompu. Mais M. de Martigné était amoureux, et amoureux comme on l'est lorsqu'on ne devrait plus l'être. Au bout de 8 jours, ses amis ne le reconnaissaient plus. L'ennui, le chagrin, l'avaient ravagé comme une maladie mortelle. Aux grands mots, les grands remèdes, on lui conseilla, pour sauver sa vie ou sa raison, de faire taire sa conscience. Le pauvre homme ne demandait pas mieux que d'obéir à l'ordonnance. Il l'épousa en promettant tout ce qu'on exigeait de lui. À partir de ce moment, la vie de M. de Martigné ne fut qu'une longue suite de mécomptes et de tourments. Sa femme, dont l'orgueil froissé ne lui pardonna jamais ses hésitations et qui n'attendait que la conclusion indissoluble du mariage pour donner l'essor à ses mauvais instincts, lui créa un intérieur rempli d'amertume où chaque jour amenait une querelle, une peine nouvelle. Plusieurs années s'écoulèrent ainsi. Fier et craignant autant la pitié que le ridicule, M. de Martigné n'exhala pas une plainte, et chacun pouvait le croire le plus heureux des mortels. Son seul valet de chambre, Richard, connaissait ses souffrances et ses regrets. Mais ce n'est point en vain que l'homme courbe la tête sous le malheur, et si, au prix de 1000 efforts, il parvient à maîtriser les révoltes de son cœur, c'est souvent aux dépens des sources de la vie. M. de Martigné en était arrivé à cette fatale période. Sa patience, son silence, sa morne résignation épuisaient son corps. Une fin prochaine semblait le menacer. Telle était la position du comte lorsque les émigrés commencèrent à rentrer en France. Plusieurs d'entre eux, pourtant, boudèrent encore longtemps cette patrie ingrate qu'ils avaient chassée de son sein. Mais cet excès de délicate susceptibilité n'était point l'apanage de la nouvelle madame de Martigné. Pressée de jouir du triomphe que lui promettait son aristocratique position aux yeux de ses anciennes connaissances, elle s'empressa de grossir le nombre des rentrants. C'est alors que nous retrouvons M. de Martigné, désespéré, mourant, se soutenant à peine, dans les jardins de cet hôtel somptueux acheté par sa femme, offrant ainsi le douloureux contraste des misères humaines avec les riches splendeurs de la terre. Mais, tandis qu'un père coupable, aux prises avec sa conscience, maudit sa faiblesse et meurt sous le poids des chagrins et des remords, une mère ambitieuse rêve au moyen d'activer l'événement qui doit combler tous ses vœux. Sans souci de l'état de son mari, sans pitié pour les combats de cette âme souffrante, au moment d'accomplir une promesse dont la cause faisait aujourd'hui rougir son front, Madame de Martigné, aiguillon pressant et redoutable, ne laissait plus au malheureux comte un instant de répit. Disons aussi que, de son côté, Madame de Martigné recevait à droite ce qu'elle donnait à gauche, et que, tourment incessant de son mari, elle n'était pas moins tourmentée par le fils sur lequel reposaient sa gloire et ses espérances. Sextus Bouffard, ainsi se nommait ce fils prédestiné, était encore un enfant lorsque sa mère quitta la France en 1791. À l'heure dont nous parlons, c'était un garçon d'une vingtaine d'années, grand raisonneur, grand péroreur, élevé aux leçons de la chaleureuse éloquence des clubs et des carrefours, et tout imbu des idées de la licence d'alors, qui, au sortir de ses langes, lui avait tendu la main. En apprenant de la bouche de sa mère les conditions par elle imposées à son noble beau-père, le héros plébéien s'était d'abord cabré comme un cheval indompté. Souscrire à ces conditions, c'était renier son culte, marcher à plein talon sur les opinions professées à grands sons de trompe. Quel air aurait le jeune progressiste le jour où il ornerait son front d'une aristocratique couronne, lui dont la tête d'enfance était fièrement parée du bonnet rouge? Pouvait-il, sans que sa main se desséchât par le fait du sacrilège, échanger les certificats pompeux que lui avait valu son imberbe civisme contre des parchemins stériles, ne retraçant que les actions d'éclat accomplies sous la royauté? Non. La révolution régénératrice l'avait célébré Sextus Bouffard. Sextus Bouffard, il mourrait. Nous ajouterons pourtant que si la révolution avait fait de Sextus Bouffard un de ses héros, elle avait sauté à pieds joints sur certains instincts matériels qu'il tenait de la nature et que l'éducation paternelle avait encore aidé à développer. Joueur, viveur, libertin, fréquentant un monde où il trouvait peu de Lucrèce, ce Sextus moderne, à l'imitation de l'ancien, était aussi prodigue d'écu qu'il était avare de bons sentiments. Le mot argent était le seul qui eut quelque prise sur son âme avilie et corrompue. Obéré de dettes, ayant dépensé 10 fois au-delà des sommes suffisantes à lui donner une grande aisance, lorsque le jeune Bouffard revit sa mère après une aussi longue absence, l'unique pensée que ce retour fit naître dans son esprit fut celle de chercher le côté propice pour mettre en Perse le coffre-fort à portée de l'exil. Mais là était le point difficile à franchir. Le coffre, comme celle qui disposait de son contenu, était invulnérable. Il ne restait au stoïque Sextus que la ressource de marchander une à une les concessions qu'on lui demandait. Il s'y décida, se faisant grassement payer chaque sacrifice arraché à ses chères habitudes. Toutes les démarches avaient été faites, toutes les dispositions avaient été prises, pour que le jour où serait signé le contrat qui unissait l'héritière des Martigné à l'héritier des Bouffard, celui-ci offrit comme dernier holocauste, sur le bûcher révolutionnaire, l'abandon des noms redondants que lui avaient valu tant de succès divers. C'était donc ce moment qu'il fallait hâter, car jusque-là on marchait sur un volcan et tout pouvait s'écrouler encore. Aussi Madame de Martigné y travaillait-elle avec l'ardeur d'un mineur qui, au moment d'atteindre le filon, craint l'explosion du feu Saint-Elme. Un point surtout causait à Madame de Martigné les plus vives inquiétudes. Quel effet produirait sur la jeune Marie la vue de son futur époux? Sextus, auquel nous donnerons encore ce nom, avait, si l'on peut s'exprimer ainsi, tout le physique de son moral. Une taille moyenne, mal développée, des membres grêles en disproportion avec son corps, lui donnait l'aspect d'un animal immonde, la grenouille. Sa tête, grosse, ramassée, enfoncée dans ses épaules, venait encore corroborer la vérité de cette ressemblance. Ses mâchoires saillantes, son front déprimé, annonçaient les appétits matériels de sa nature, et dans ses yeux vitreux, sur ses joues flasques et livides, la débauche avait laissé des traces indélébiles. Coryphée des salons de Barras, Sigisbée Muscadin des aventurières célèbres de l'époque, accoutumée au scandale de leurs mœurs, Sextus ne comprenait ni les vertus qui distinguent les honnêtes femmes, ni le respect et les hommages dont elles doivent être entourées. Tout dans ses paroles, dans ses gestes, dans l'expression de son regard, décelait la hardiesse impure de ses pensées et de ses désirs. Tel était l'homme destiné à la chaste fleur des bois, élevée à l'ombre des chênes antiques qui abritaient la tour aux belles.